Vous écoutez RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Il y a très longtemps, à une époque très ancienne,
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Bien avant que notre continent ait même un nom,
la curiosité est un vilain défaut.
Ils étaient différents de nous, mais ne ressemblaient plus aux grands primates dont ils descendaient.
Curieuse, curieux.
Aujourd'hui, une seule espèce humaine peuple la Terre. Homo sapiens.
Vous êtes chez vous, sur RTL.
Qui sont nos aïeux? Le berceau de l'humanité est-il vraiment en Afrique? Et nos ancêtres sont-ils vraiment gaulois? Toutes ces questions titillent votre curiosité, ça tombe bien, on va y répondre tout de suite avec Mathieu Villiers. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir.
Re-bienvenue, vous êtes un des sociétaires de la curiosité, directeur de la rédaction de Science et Vie qui publie un dossier sur nos ancêtres, c'est en partenariat avec RTL. Et alors votre série d'articles s'ouvre par une galerie de portraits, un peu comme si on avait ça chez nous, dans le salon familial, et on y trouve nos très très lointains parents. Le plus vieux porte un nom très savant. Je prends ma respiration. Sahelanthropus tchadensis. On le connaît un peu mieux sous son surnom de...
Toumaï. Il y a le mot Tchad aussi dedans.
Ben voilà. Ouais. Évidemment, parce qu'il a été découvert dans le Sahel, au Tchad. Il nous remonte très très loin en arrière, c'est ça?
Oui, c'était un choc. Hein. Enfin, il y a eu deux chocs. Il y a eu Aurorin et Toumaï qui ont 6 et 7 millions d'années et qui présentent des caractéristiques humaines qui font que c'est pas vraiment des australopithèques, on est assez loin du singe, il y a beaucoup de caractères humains, jusqu'à ces découvertes qui sont récentes, hein. On pensait que les premiers ossements qui ressemblaient vraiment à de l'homo, fallait compter 3 millions d'années, mais guère au-delà.
Et là, c'était Lucie, c'est ça?
Oui, alors on s'est trompé un peu sur
c'est
Lucie.
Vrai ah.
Lucie, elle est pas vraiment homo, en fait. Elle a eu le titre de doyenne de l'humanité pendant longtemps.
Oui, elle croyait que c'est la grand-mère d'humanité, mais pas du tout.
Non, c'était un petit peu trompé. Ah. C'est une très belle découverte, hein, qui avait bien reculé aussi la datation de l'apparition d'homo, mais elle n'est pas véritablement homo, Lucie. Ce qui est plus le cas des Toumaï et des Aurorins, qui sont bien plus anciens.
Mathieu Villon, depuis une trentaine d'années, on va de découverte en découverte, comme ça, sur notre généalogie, entre guillemets. Quelles sont les plus importantes de ces découvertes?
Je crois que les découvertes les plus importantes, c'est l'ensemble de ces découvertes. C'est-à-dire que on avait tous, je crois, gamins en tout cas, cette idée d'une sorte de lignée d'un singe descendu de son arbre, se redressant et partant tout droit dans la savane, perdant sa fourrure et portant loin la tête haute, un regard clair. Bon. C'est pas du tout comme... Ce qui est fascinant de cette histoire, c'est qu'on se retrouve avec une chose beaucoup plus compliquée que ça, beaucoup plus buissonneuse, beaucoup moins linéaire. En fait, nous sommes les premiers hommes à ne pas avoir vécu avec d'autres espèces d'hommes. Il y a eu énormément d'espèces d'hommes, 20, 30, et il est très récent, ça fait 25 000 ans, que Sapiens, dont nous sommes, est le seul représentant du genre homo sur la planète.
Ça veut dire qu'on est les plus forts, c'est nous qui avons résisté et les autres ont disparu?
Ça veut dire qu'on
s'est débarrassé des autres, peut-être
ouais.
aussi.
Peut-être aussi.
Sélection naturelle ou pas?
Sélection naturelle. Non, ce qui est certain, c'est qu'il y a eu des épisodes très difficiles. Certaines espèces ont poursuivi leur chemin, d'autres pas. Mais ce qui est fascinant, et pour essayer de répondre à votre question, alors c'est vrai que les découvertes de Toumaï et d'Aurorin ont été un choc pour les gens qui travaillent dans ces domaines-là. Mais c'est surtout cette représentation d'un buisson extrêmement touffu, avec des représentants homo très différents, des petits qui font 1m10, des gars qui faisaient 1m85 il y a 2 millions d'années. Enfin,
oui.
Pas du tout cette évolution linéaire qu'on avait en tête avant toutes ces découvertes.
Mais Mathieu Villiers, est-ce que ça remet en cause l'idée que le berceau de l'humanité est en Afrique?
Alors, on a découvert des fossiles en Afrique qui sont très anciens. Il n'y a aucun doute que c'est... La question que vous posez, c'est de savoir est-ce que c'est l'endroit ou est-ce que c'est
d'où
un
est parti,
des endroits.
D'où est parti
Alors la thèse de la sortie de l'Afrique est solidement étayée, hein, y a pas trop de questions là-dessus, mais il y a eu des découvertes en Chine en particulier, en Asie du Sud-Est et en Chine en particulier, de très 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 vieux homo, hein, on parle de 100 000 ans, voire 120 000 ans. Et on imaginait que les homos étaient partis d'Afrique il y a à peu près 70 000, 80 000, 100 000 ans peut-être. Du coup, ça sème un peu de trouble et il y a une question qui se pose, c'est de savoir si finalement il est possible que le genre homo ait émergé en deux endroits, pourquoi pas 4, 36 ou 42, en même temps. On était sur une lecture évidente d'une sortie d'Afrique avec une émergence en Afrique. On se retrouve avec un scénario peut-être de co-émergence aujourd'hui, avec une autre filière qui viendrait d'Asie du Sud-Est.
Alors vous dites homo, Mathieu Villiers, vous voulez dire homo sapiens?
Ah non.
Non? Parce que c'est troublant comme.
Derrière ça,
c'est l'homo.
Homo erectus, homo sapiens.
Alors des
la série des. Voilà.
Ergaster, etc.
Il y en a plein. L'homo sapiens, c'est une affaire extrêmement récente. Là, on ne parle plus en millions d'années, on parle en centaines de milliers d'années. C'est-à-dire que l'homme moderne, les sapiens que nous sommes, ont 300 000 ans. Je crois.
Ouais. Et alors, ce qui est dingue, c'est la croissance ultra rapide depuis quelques siècles de l'humanité. Et pourtant, l'humanité a failli disparaître deux fois. C'est aussi ce que j'ai appris dans ce Science et Vie question-réponse sur nos ancêtres. Il y a environ 150 000 ans d'abord, c'était à cause de quoi ?
Alors, il y a eu une période glaciaire qui a décimé les troupes assez massivement. Il faut savoir qu'on parle d'une population qui est toute petite. Hein. On est à quelques centaines de milliers d'homo. Toute espèce confondue. Donc, c'est une petite population et quand il arrive un énorme coup de froid, ils n'y sont pas préparés et on pense qu'on a frôlé l'extinction et que la population humaine, de genre homo, aurait pu tomber aux alentours de 100 000, ce qui commence à être un petit peu critique.
Donc, ça, c'est la première, il y a environ 150 000 ans de nous. Et puis, il y en a une autre.
Plus récente,
73 000 ans avant notre ère.
C'est comme loin.
C'est plus précis comme datation.
Et
pourquoi ?
Et c'est plus dur encore, puisque là. Alors. C'est assez spéculatif, hein, mais on pense qu'on est tombé en dessous des 50 000 et probablement à 10 000 représentants des espèces homo, ce qui est vraiment extrêmement peu. C'est un volcan en Indonésie qui s'appelle le Toba, qui a libéré 5 millions de kilomètres cubes dans l'atmosphère. Ça a dû être une sorte de nuit glaciaire nucléaire. Ils n'étaient pas préparés du tout et je pense que tout le monde pense que l'extinction était très très proche à ce moment-là.
Et ce qui est fou, c'est de se dire qu'aujourd'hui on est plus de 7 milliards d'humains sur la Terre. Ça veut dire quoi qu'on a réussi à se défendre et à se reproduire à une allure absolument hallucinante ?
Ça veut dire que ça fait quand même un tout petit moment par rapport à l'échelle dont on parle, qu'on s'est un peu affranchi d'une pression sélective. On a un petit peu domestiqué la nature quand même à notre avantage. Hein. Mais ce qui est étonnant, c'est que pendant 3 millions d'années, à peu près, il ne se passe rien en termes de démographie. À part ces deux gros trous-là, très périlleux pour l'espèce, il ne se passe rien.
C'est-à-dire qu'il y a à peu près toujours combien d'humains
Un petit million, bon an, mal an. Oui, c'était à peu près rien du tout. Et puis là, il se passe un truc qui s'appelle la révolution néolithique, hein, qui est à peu près 8-10 000 ans avant Jésus-Christ, ce qui est une toute petite échelle de temps par rapport aux millions d'années dont on parle. Là, la population augmente et en 10 000 ans, ça se multiplie par 100. Et alors aujourd'hui, on arrive au milliard en 1800.
Mais qu'est-ce qui provoque ça ? C'est quoi la révolution néolithique ?
Moins de famine, parce qu'on se met à cultiver, on commence à s'habiller, on commence à se loger. On est assez proche du début de l'histoire. Hein. Dans les quelques milliers d'années qui suivent, on a l'émergence de l'écriture, on rentre dans la période historique. C'est pas très loin, 8-10 000 ans, hein, aux échelles dont on parlait. Les modes de vie évoluent singulièrement. On n'est plus des nomades, on se sédentarise. Bon, et tout ça est très favorable.
Et on se protège.
Évidemment. Ouais. Alors, l'explosion depuis 1800, alors c'est quelque chose de tout à fait inédit. Hein. On était 1 milliard en 1800, on en sera 10 à la fin de ce siècle. C'est-à-dire qu'en 300 ans, on aura repris un facteur 10. C'est
donc
tout à fait inédit.
Prendre soin de notre planète, puisqu'on est de plus en plus nombreux dessus. Quels sont nos points communs avec ces très très lointains ancêtres ? Les atomes, les bactéries qui nous constituent, sont-ils eux aussi très anciens ? Vous avez peut-être dans votre estomac une bactérie de Néandertal, Sidonie, on ne sait jamais.
C'est pas vrai.
Ben ouais, vous n'êtes pas au bout de votre
surprise. J'ai hâte de faire sa connaissance.
À tout de suite.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
On découvre l'arbre généalogique de l'humanité sur RTL et pour cela on remonte très très loin dans le temps, des milliards d'années en arrière pour voir vivre Toumaï, Lucie et les autres. Et c'est Mathieu Villiers qui est bien avec nous, le directeur de la rédaction de Science et Vie qui nous sert de guide. Vous publiez un numéro questions-réponses sur nos ancêtres, c'est en partenariat avec RTL. On l'a vu avec vous, l'homme, bon, c'est une espèce à part, mais ce qui nous caractérise, c'est pas forcément le fait de marcher. Ça m'étonne.
Non, les poules marchent aussi. Enfin, c'est pas.
Ah oui, c'est vrai.
Elles marchent ? Ah oui.
Bah oui, sur deux pattes.
Oui, c'est vrai.
Non, c'est pas la marche, c'est le propre de l'homme. C'est d'ailleurs assez difficile, ça donne lieu à des controverses très animées. Qu'est-ce qu'est le propre de l'homme ?
La course peut-être.
Le fait de courir ?
Oui, la course, il y en a une autre. Mais la course en est une très belle. J'ai appris un truc que je savais pas.
En préparant ce dossier ?
En lisant les papiers des journalistes qui ont travaillé, on bat le cheval en endurance.
Attendez. Même moi, vous allez dire ?
Ouais. Vous dire en marathon, par exemple.
Ouais. On est les champions du monde de la course d'endurance. Extraordinaire.
Ah oui, ça c'est extraordinaire.
Alors ça devait avoir un avantage évolutif, sûrement, hein, pour épuiser ses proies, ou arriver les premiers, ou est-ce que je sais. Mais alors c'est vrai que le tendon d'Achille est un truc complètement génial. Hein. Ça économise 50% de l'énergie à la détente, c'est un truc qu'on a. On a une voûte plantaire qui est extraordinaire. On a les orteils qui sont bien courts, bien alignés pour se projeter vers l'avant. Même debout, on dépense presque pas plus d'énergie que couché. Enfin, on est vraiment fait pour être debout, aller de l'avant, aller vite et longtemps.
Et notre cou, il a des particularités.
Ah oui,
aussi.
Alors le cou, c'est très important. Il faut avoir la tête bien au-dessus, bien droite. Donc le trou dans lequel
on se redresse
tous
là.
Tout le monde se tient mieux. D'un ouais. Non. Le cou, la tête s'insère. Je vais y arriver. C'est le dessous de la tête qui est pris sur le cou et pas l'arrière. C'est-à-dire qu'on a la tête droite pour regarder loin devant sans faire d'effort particulier. Le cou part pas sur l'avant, il est posé droit sur la tête et la tête est posée droit sur le cou.
Oui, donc on n'est pas obligé
spécifique
de se redresser.
C'est ou pas un effort de se tenir droit.
Et de voir loin, effectivement, ce qui devait aussi être un atout, on peut l'imaginer, pour voir des proies ou pour échapper à des prédateurs.
Oui, puis pour courir, pour voir où on met les pieds déjà.
Et pour voir où on met les pieds et pour courir. Alors le coccyx, il a quelque chose de particulier aussi. Il y a un lien entre notre coccyx et nos ancêtres.
Ah, oui, enfin, c'est un vieux truc, le coccyx. Hein. C'est, bon, c'est un très vieux truc.
Tu vas parler du vôtre,
hein. Tout ça, non, c'est une sorte de leg évolutif d'une queue dégénérée qui n'a plus lieu d'être.
Vraiment?
Oui, bien sûr. C'est une queue, vous ne savez pas?
Ben non, je le découvre, vraiment.
Mais d'autres l'ont perdu bien avant nous. Il y a beaucoup de singes qui n'ont pas de queue et qui ont un coccyx. Enfin, c'est une perte qui est bien intérieure à l'homme.
Et donc ça, ce n'est pas une spécificité humaine. Mathieu Villiers, dans votre Science et Vie de mars-avril, vous posez cette question étonnante. Quel âge ont nos cellules, nos atomes?
Ben alors, nos atomes, vous aviez un planétologue tout à l'heure.
Ouais.
Nos atomes, ils sont vieux comme l'univers. C'est-à-dire que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, le Big Bang, c'était il y a 13 milliards d'années et demie à peu près, les atomes se sont créés à ce moment-là. Et il a fallu que ça refroidisse un peu, c'est-à-dire que 300 millions d'années après, on avait à peu près toute la panoplie atomique qu'on a aujourd'hui.
Ouais.
Donc, nos atomes ont presque l'âge du Big Bang, un peu plus de 13 milliards d'années, si vous voulez. Ça, c'est l'âge des atomes qui nous constituent. Donc, en termes d'ancêtres, si vous voulez, les atomes, c'est bien avant Aurora aussi, hein, et avant Toumaï. Nos cellules, l'organisation de nos cellules, elle a quelques milliards d'années, elle. C'est l'alliance entre, vous savez, les eucaryotes, les prokaryotes, ceux qui ont des noyaux, qui n'ont pas de noyaux. Nous, on a des noyaux dans nos cellules. C'est quelque chose qu'on doit à une sorte d'union entre une acnée et une bactérie. Ça a créé une sorte de noyau dans la cellule, cette union. Là, ils se sont entendus en symbiose. Donc, ça fait longtemps aussi que nos cellules sont organisées de cette matière-là.
Et je disais tout à l'heure à Sidonie que dans ses intestins, il y avait peut-être des bactéries très anciennes. Dans les miens aussi, hein, et dans les vôtres.
J'attends la réponse avec impatience.
Elles ont évolué, mais les bactéries que nous portons, les plus anciennes, ont 10-15 millions d'années à peu près, oui.
Ça veut dire quoi, ça, qu'elles ont 10-15? C'est qu'elles existaient il y a 10-15?
Ça veut dire que c'est la même souche de bactéries. D'accord. Ce sont des bactéries qui existaient, qui ont évolué avec nous, qui sont sans doute pas tout à fait identiques à ce qu'elles étaient lorsqu'elles étaient hébergées chez d'autres hôtes que nous, mais qui sont de la même famille. Donc on a un paquet de vieux trucs.
Mais c'est dans les... Qu'est-ce qu'on dit, les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes? Ça se vérifie, regardez.
C'est tous les soirs, c'est vrai, tous les soirs de 20h à 22h.
Les plus jeunes
sur RTL.
Mais bien sûr.
Alors, il y a une affirmation aussi qu'on a tous en tête parce qu'on nous l'a seriné à l'école, nos ancêtres les Gaulois. Et là, on va parler un peu d'histoire et de politique parce que c'est une affirmation avec une volonté politique, c'est ça?
Oui, au départ, oui. Enfin, c'est... De mémoire, c'est Ernest Lavis qui a écrit ça dans son petit Lavis, qui est entré dans les écoles à la fin du 19e.
Ouais.
Il a écrit que le pays s'appelait la Gaule et que les habitants étaient les Gaulois. Bon, c'est un point de vue patriotique engagé sur une histoire un peu plus complexe. On est après la défaite de Sedan, ou Napoléon III, je crois, après... pâté par les Prusses, là. Donc, il faut un peu redorer le blason national et c'est une fable. C'est un roman national.
Pourquoi? Parce que, en fait, la Gaule, c'était une terre de métissage, de peuples venant d'un peu partout.
Oui, bien sûr. C'est-à-dire que c'est un espace qui a été annexé par plein de peuplades différentes tout au long des âges. On a eu des Celtes, donc les Gaulois, mais beaucoup de peuples germains, les Visigoths, les Burgons, les Francs, qui sont des peuples scandinaves, les Normands, enfin tout ça c'était quelque chose de très de pas homogène du tout, si vous voulez. C'était un terrain de conquête. Il y a les Aquitains qui étaient à gauche. Enfin, les Gaulois, c'était un petit bout de l'affaire. C'est ceux qui se reconnaissaient dans une langue qu'ils partageaient, qui était la langue celte. Mais c'est pas du tout ça l'histoire. Enfin, c'était pas le peuple des Gaulois qui faisait la France. Ça devait être très rigolo à l'époque de penser ça. Aujourd'hui, on en est à peu près revenu de cette histoire-là. C'est-à-dire que c'est plus ce qui est enseigné à l'école.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Français ne portaient qu'un prénom au début. Il y a combien de temps?
Bah, du temps des Gaulois, justement, ouais. De nos prétendus ancêtres, les Gaulois.
Et alors, le nom de famille, il est arrivé quand?
Le nom de famille, il est arrivé plus tard. En fait, les Gaulois avaient un prénom, et au moment de la conquête romaine, les Romains ont demandé à ce qu'on rajoute différents noms, des noms de clans, des noms de famille, il y en a eu beaucoup. Et puis après, ça a changé encore, les invasions germaniques, après c'est revenu, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus qu'un nom unique. Enfin, c'était tout un bazar.
Puis à un moment, on était trop nombreux, il fallait... Il y avait trop de Jean, trop de Martin, trop de...
Ouais. Etc. Alors après, on prenait d'autres choses. Par exemple, si moi je m'appelais Jean, mais mon père s'appelait Martin, on pouvait m'appeler Jean, fils de Martin, ça donnait Jean-Martin, vous voyez. Mmh. On faisait des trucs comme ça. Ou alors, si j'étais brun, on disait ben, Jean Brun, ou si j'étais boulanger, c'était Jean Boulanger. Enfin, ouais. Ça s'est fait un petit peu comme ça.
Mais vous êtes Mathieu Villiers, voilà. Aujourd'hui, cette recherche.
Oui, mais entre-temps, il y a eu l'état civil et tout ça.
Il y a eu des histoires.
C'était bien plus tard.
Cette recherche de nos origines passionne de plus en plus de Français, mais la généalogie permet-elle de répondre à cette question cruciale? Charlemagne était-il notre ancêtre à tous, à toutes les curieux?
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnac.
C'est une passion française dont on va parler maintenant sur RTL, la généalogie, l'un des thèmes du dossier que Science et Vie consacre à nos ancêtres, à nos aïeux, en partenariat avec RTL. Mathieu Villiers, je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction de ce magazine. Quand je dis passion française, pourquoi les recherches généalogiques sont-elles aussi fructueuses chez nous?
Oui, il se dit qu'il y a 7 Français sur 10 qui s'y intéressent vraiment, ce qui est assez énorme.
Ouais.
Je sais pas, c'est peut-être lié à notre histoire aussi. On va chercher du sang bleu, peut-être qu'il y a des histoires qui sont plus linéaires, plus lisses, avec moins d'aspérité, qui déchaînent moins de passion. En tout cas, en France, c'est un sport national.
Et peut-être aussi une matière qui permet de trouver quand on se lance dans des recherches.
Oui, puisqu'on a un état civil qui est correctement tenu depuis la Révolution française, donc on peut remonter assez loin. Au-delà, c'est un peu plus compliqué. Mais alors maintenant, ça devient plus simple, puisque depuis l'automne dernier, les collectivités publiques ont obligation de mettre leurs archives à disposition du public. Donc ça facilite un peu le travail de ce... Il n'y a plus forcément besoin de faire le tour des cimetières et des mairies.
On ne sait pas toujours par quoi commencer quand on veut démarrer une recherche généalogique.
Par la fin. Par la fin.
Par la fin, c'est-à-dire par nous.
Par nous, par nos parents, c'est ouais. Ça
bah,
la branche paternelle, c'est peut-être plus facile.
Alors,
parce que
a priori, oui, c'est-à-dire que c'est le nom paternel qui se transmet, oui. Donc c'est plus simple. Mais avant de commencer par le père, il faut essayer de s'assurer que du côté paternel, les origines ne sont pas trop loin géographiquement aussi. C'est-à-dire que si on sait que la famille de la branche paternelle a vécu un peu partout dans le monde, il faut peut-être mieux commencer par la mère. Mais a priori, c'est plutôt par le père qu'il faut commencer. Ouais.
Mathieu Villiers, j'apprends dans votre Science et Vie en partenariat avec RTL que les Mormons peuvent aussi nous aider dans nos recherches. Pour quelle raison?
Bah alors les Mormons, ils ont monté une base de données qui doit être la plus grosse base de données au monde, hein, je crois, à tout le monde.
Ah bon?
Ouais, est-ce qu'ils sont dans l'idée qu'ils ils veulent baptiser les leurs à titre posthume? Donc ils se sont lancés dans une recherche extrêmement profonde et fouillée.
Pardon, je vous interromps. Même des archives françaises, même des
dossiers français. Ah oui, absolument. Donc c'est une ressource documentaire très intéressante. Alors elle a pas mal de concurrence aujourd'hui qu'elle n'avait pas hier. Hein, depuis que les choses sont en libre accès, il y a pas mal de sites informatiques très bien faits qui permettent de faire des recherches assez efficaces. Les mairies donc y participent, les archives départementales sont consultables par tout le monde et on peut remonter assez facilement sur une dizaine de générations. Après, c'est plus compliqué.
Alors on va se compter, tiens, il y a Sarah qui attend vos appels au 3210, il y a Sébastien notre réalisateur, il y a Coralie notre productrice et programmatrice, Mme Bonnec à mes côtés, Sidonie, Mathieu Villiers et moi. Est-ce que tous les 6, on a forcément un ancêtre commun si on remonte en généalogie jusqu'au Moyen-Âge?
On ne reparle pas de Toumaï là, hein?
Non, on ne remonte pas aussi loin, là, je dis juste, allez, je suis moins ambitieux.
Bah oui, on a forcément des enceintes communes. Il y a un calcul qui est rigolo. En général, les gens le font avec Charlemagne pour montrer un peu le paradoxe de la chose. C'est-à-dire entre Charlemagne et nous, il y a à peu près 45 générations, on va dire.
Ouais.
Donc chacun d'entre nous, on a 2 puissance 45 antécédents
ouais.
au moment de Charlemagne. Ce qui fait des centaines de millions de fois la population de l'époque. Ça marche pas trop, cette histoire-là. En fait, ce qui se passe, c'est que... Évidemment qu'on a des ancêtres communs, c'est-à-dire que si l'un de vos cousins germains a une union productive avec l'une de vos cousines germaines,
c'est joliment dit.
Eh ben, vous perdez déjà un quart de vos aïeux. Ça se réduit très vite au fur et à mesure qu'il y a des mariages qui se font dans un écosystème resserré. Mmh. C'est pour ça que cette chose est un peu absurde.
Donc je vais pas réclamer l'héritage, une part d'héritage à Charlemagne. Je laisse tomber parce
non,
que du coup, je me demandais.
Non, c'est-à-dire qu'en théorie vous pourriez, mais dans les faits c'est assez peu probable.
D'accord.
Voilà. Et c'est la consanguinité qui explique que ce paradoxe, que, voilà, ce paradoxe apparent.
Et l'ADN, tiens, on va parler un peu de l'ADN. Est-ce que l'ADN peut nous aider à savoir d'où on vient, qui sont nos ancêtres ?
Bah, y a tout là-dedans, comme on dit. Tout est
c'est
dûment consigné. Ah, et tout est dûment consigné dans l'ADN. Là, pour le coup, personne sur Terre n'a le même que le vôtre. Vous pouvez chercher des ancêtres communs avec votre voisine, mais vous ne trouverez pas quelqu'un qui a le même ADN que vous.
Mais en analysant mon ADN, on peut savoir si j'ai des ancêtres... Alors moi, je sais que j'ai des ancêtres corses et mayennais, bon, mais c'est très proche de moi, mais beaucoup plus loin, j'en sais rien, asiatique, africain,
ouais,
etc.
Oui, bien sûr, il y a des séquences. On peut même remonter jusqu'à Néandertal, puisqu'on sait aujourd'hui qu'il y a eu des unions fécondes, pour le coup, entre Néandertal et Sapiens, on peut remonter extrêmement loin. Hein. On prend un morceau de Néandertal, on regarde sa séquence génétique, on trouve la même chez Sapiens, c'est quand même bizarre.
Quand vous dites on peut le faire, on peut tous le faire, moyennant évidemment finance.
Décrypter son ADN
ouais.
à soi
ouais.
Ah ben, ça coûte presque plus rien et ça se fait extrêmement couramment, oui.
Ah oui.
Bien sûr.
Non, c'est
l'ADN de Néandertal, c'est plus compliqué parce que il y a moins de matériel disponible, mais c'est comme ça qu'on sait que on voit apparaître, par exemple, des séquences génétiques chez certains peuples en Asie, notamment cet exemple assez connu de la digestion du lait.
Oui.
Tout à coup, à un moment, dans l'aléa de la duplication de l'ADN, il y a des séquences qui se mettent en place et qui font que ça produit des protéines qui elles-mêmes produisent des enzymes qui font qu'on peut digérer le lait. Bon, ça apparaît à un moment, à un endroit dans l'histoire de l'humanité.
Donc les Français qui digèrent bien le lait ont sans doute des ancêtres asiatiques.
Absolument. Ça raconte toute l'histoire de l'humanité, cette affaire.
Bah, dites-moi, si ça coûte pas cher, on devrait peut-être tous le faire. En ces temps de repli sur soi, ça ferait du bien de savoir qu'on a tous des ancêtres africains, asiatiques, arabes et d'autres.
Alors, tiens, faisons-le. Hein,
ce sont des analyses partielles qui coûtent à peu près 1000 dollars. Les analyses très poussées sont un peu plus chères.
D'accord.
Mais c'est des choses qui demandaient des fortunes et des moyens considérables il y a encore 10 ans, qui demain seront prescrites par les médecins.
L'ADN, c'est la clé de notre identité, on le comprend bien avec vous. Est-ce que cette clé, elle peut être transformée, affinée par ici, rabotée par là ? Est-ce qu'elle peut être modifiée ?
Elle ne cesse d'être modifiée. Par le hasard, c'est la théorie de l'évolution. À force de copier, de recopier, de dupliquer, il y a des erreurs de copistes qui se font, et qui en général n'entraînent aucune conséquence. C'est le cas le plus fréquent. Qui parfois sont à l'origine de maladies, et qui parfois, rarement, mais sur du temps long ça arrive, sont à l'origine d'évolutions positives pour l'espèce. Ça se fait au hasard, et puis ça se fait aussi par l'environnement. Évidemment, si je baigne dans un environnement qui est différent... Pollué, par exemple. Mon ADN va être altéré, l'expression de l'ADN va être altérée. Donc il y a l'environnement et le hasard qui, tous deux, modifient l'ADN au fur et à mesure des générations.
On a tous quelque chose en nous de Néandertal, mais aussi des poissons et des amphibiens. Ben oui, c'est ce qu'on va découvrir juste après les infos sur RTL.
Et puis dans la seconde heure de la curiosité, des révélations sur la vie des arbres. Vous les croyez solitaires, silencieux. Vous allez découvrir qu'ils sont bavards, qu'ils ont un esprit de compétition, qu'ils retiennent tout et qu'ils peuvent aussi tomber amoureux tout de suite. C'est l'heure des infos. RTL, il est 21h.
Il est 21h, passé de 3 minutes sur RTL. Vous êtes en compagnie de Sidonie Bonnec et Thomas Hugues.
Merci beaucoup Quentin.
Merci Quentin.
On a le plaisir de vous retrouver tout à l'heure à 22h dans RTL Grand Soir.
Absolument.
Animé par Agnès Bonfillon et Christophe Paco. À plus Quentin.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
RTL. Jusqu'à 22h, la curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
21h04 sur RTL, vous venez de nous rejoindre. Vous avez bien raison, c'est la première radio de France. On est ensemble jusqu'à 22h et on est curieux.
Oui, et tellement curieux qu'on va partir se balader en forêt à la découverte des arbres et de leur vie secrète. secrète. Saviez-vous qu'ils sont bavards, qu'ils ont bonne mémoire, qu'ils élèvent très bien leurs enfants et que ce sont parfois aussi des cœurs d'artichaut?
C'est votre portrait, ça, non?
Oh, c'est gentil.
Allez, tout de suite.
Je recherche la mesquinerie.
Non, il
n'y
a que de la gentillesse.
Ah, bah oui.
On recherche nos ancêtres sur RTL. On parle génétique et on va de surprise en surprise.
Vous n'en doutez peut-être pas, mais vous êtes absolument fascinant.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Vous détenez, sans le savoir, une somme d'informations inimaginables.
RTL.
Le contenu d'une bibliothèque hors du commun.
La curiosité est un vilain défaut.
Qui que vous soyez, d'où que vous veniez, vous possédez les secrets de notre origine sur cette planète.
Curieuse ? Curieux ?
Les meilleurs généticiens et les archéologues les plus chevronnés vont vous raconter cette histoire. Votre histoire.
Vous êtes chez vous, sur RTL.
Qu'est-ce que c'est agréable d'entendre ça, vous êtes fascinant. Ben on prend, nous.
Oui, bien sûr.
Nous, on est contents, ça fait du bien, mais on est fascinant grâce à nos ancêtres. Nos ancêtres et nous, c'est le thème de notre curiosité, c'est d'un dossier passionnant du magazine Science et Vie, en partenariat avec RTL, et c'est le directeur de la rédaction, Mathieu Villiers, qui est avec nous. Et avec vous, on va de surprise en surprise. Par exemple, dans ce numéro spécial, vous posez cette question, est-ce qu'il reste en nous quelque chose des poissons?
Bah oui, il y a une trace.
Ah oui,
j'ai vécu ça autour de moi. On m'a expliqué qu'une copine s'était ouvert une branchie. Je savais pas non plus. Mais en fait, oui. Regardez l'embryogenèse, le petit embryon dans le ventre de sa maman qui ressemble à un tétard, là.
Donc au tout début, quoi.
Au tout début. Ouais. Au tout début, on a l'impression que la vie rejoue toujours le même scénario, qu'elle a un même plan, et puis que par apoptose, qui est cette capacité qu'ont les cellules à se détruire, à mourir, en fait, c'est comme si on avait un gros paquet de choses et que on sculptait à l'intérieur de ce paquet la forme qui allait advenir. Et au départ, il y a une forme qui est un peu commune, qui a une assez longue queue, qui a potentiellement des branchies, mais dans le cas du petit homme, on ne trouve pas la cavité derrière, donc finalement, ce développement de la branchie s'arrête simplement.
Pour revenir sur votre ami qui a une branchie, enfin, on a vraiment des branchies.
On a une trace, là, sous le cou, d'une sorte de pré-ouverture. C'est comme si c'était un peu en pointillé. C'est-à-dire qu'on a l'évolution, l'embryogenèse n'est pas allée jusqu'au bout de cette affaire-là, parce que derrière, il n'y avait pas de cavité pour échanger de l'oxygène avec de l'eau, comme le font les poissons. Donc ça s'est stoppé, simplement. Mais la trace est là.
Mais il y a Sidonie qui se rapproche, qui allonge son cou pour essayer de voir la trace sur le vôtre. C'est à l'intérieur. Hein,
c'est à l'intérieur.
On peut pas le voir de l'extérieur.
Je tâte ma branchie, en fait. Ouais, vous voyez.
Il y a une sorte de fragilité musculaire à cet endroit-là.
Elle ne me répond pas. Hein, mais bon, on est tous en train de se tripoter le cou, du coup. Et alors, on a un autre point commun.
Oui, mais qu'on va pas se tripoter, en revanche.
Ce sont les testicules. Ah, pourquoi, Mathieu Villiers?
Oh là là.
Oui, vous inquiétez pas.
On est comme ça, vous savez, à partir de 21h.
C'est vous qui êtes sérieux, nous moins. Alors pourquoi on a les testicules en commun avec les poissons? C'est quoi cette histoire?
Un peu comme tout le monde d'ailleurs, enfin comme toutes les espèces, les testicules se fabriquent assez haut dans le ventre de la maman, donc un peu, vous voyez, un peu sous le foie, puis ils
descendent.
Ils descendent après, voilà. Donc,
Parce que chez le poisson, c'est haut, c'est ça?
Ah d'accord. Bon, alors c'est que ça.
Ouais. Mais enfin, ça va. C'est assez drôle quand même, si j'ai une seconde, c'est que...
Allez-y. Oui, surtout c'est drôle.
C'est pas un super bon plan, en fait, de designer les choses comme ça, parce que les testicules, quand ils descendent, il faut qu'ils passent par plein d'endroits, et notamment, il y a une paroi abdominale qu'il faut qu'ils franchissent, et c'est pas un truc terrible. Et c'est ça qui fait toutes les hernies qui sont assez fréquentes chez les petits garçons.
Donc, ce que vous dites, c'est que pour nous, pour le bien-être de l'homme, il aurait fallu que les testicules restent dans le corps.
Mais bon, ils n'allaient pas tout refaire non plus, parce qu'il y a un truc qui est un peu compliqué. Voilà. Mais on voit bien qu'il y a quand même une base commune, si vous voulez, qui rejoue un peu toute l'évolution de la vie à chaque embryogenèse, c'est un
passionnant.
Truc assez mystérieux.
Ouais. Alors les primates, évidemment, on va parler de la proximité avec les primates. Les primates nous ont légué un réflexe, lequel?
Bah plusieurs.
La chair de poule, par exemple.
La chair de poule, ouais, par exemple, parce que on a gardé, on a toujours des petits muscles pour chaque poil, les petits muscles horripilateurs. Et donc nos ancêtres, ils avaient de la fourrure avant.
Bah oui.
Et alors,
ça leur servait à quoi alors du coup,
à deux choses, pense-t-on. À se tenir un peu chaud, c'est-à-dire que quand il fait froid, vos petits muscles horripilateurs, hop, ils redressent les poils et ça vous fait une masse d'air en contact avec la peau plus importante, donc vous vous tenez chaud comme ça. Mm-hmm. Bon, c'est pas avec ce qui nous reste qu'on va se tenir chaud,
c'est ce que j'allais vous dire.
Et l'autre raison, c'est que quand
c'est
il y a la bagarre.
C'est pour ça que je porte des pulls, moi, mais.
Ah, c'est pour faire fuir peur aux prédateurs.
On prend un petit peu de. Vous voyez, on prend un petit peu de masse dans ces cas-là.
Alors là aussi, là, si vous croisez quelqu'un qui veut vous attaquer dans une ruelle sombre, vous pouvez toujours
resserrer vos petits
poils. Ça va pas faire beaucoup d'effet, on vous le dit.
Voilà, on continue, même sans poils d'ailleurs. Est-ce que les humains humains ont mis longtemps à les perdre, ces poils? Et pourquoi on les a perdus aussi, d'ailleurs?
On pense que c'est arrivé assez vite. Souvent, on dit, bah oui, mais c'est normal, à partir de... On parlait de la révolution néolithique tout à l'heure, on dit, bah, à partir du moment où les gens commençaient à se mettre des peaux de bête pour pas avoir froid, ça doit... Non, ça s'est fait bien avant. On sait pas trop, en fait, ça posait peut-être deux problèmes. C'est qu'au moment de la sortie de l'Afrique, donc chez les premiers humains, ils ont traversé des steppes extrêmement chaudes. Et ça prend du temps, c'était des migrations très lentes, de génération en génération, on va se mettre à côté, on prend 50 mètres tous les 25 ans, vous voyez, c'était pas
bien sûr.
Donc l'évolution a un peu le temps de faire son travail, donc ils ont peut-être eu un peu chaud avec leurs poils, et puis il y a une autre raison, c'est que c'est quand même c'est un nid à cochonneries, ces poils-là. Et bon, en termes d'hygiène, c'était pas terrible. Donc on imagine que peut-être les femelles ont préféré les mâles un peu glabres,
qui leur transmettaient moins de maladies.
Qui transmettaient moins de maladies à la petite famille.
Oui, mais c'est pas juste la préférence qui... Ah oui,
la sélection naturelle, on revient toujours à la sélection naturelle. Alors, dans votre magazine Science et Vie, Mathieu Villiers, vous cherchez, on le comprend, ce qui nous différencie des autres espèces. Alors, je découvre, je suis un peu tombé de la chaise, le menton proéminent et la poitrine généreuse. Et là, j'ai une image qui m'est venue, c'est l'enfant d'un Bogdanov et de Nabila, vous voyez, un truc comme ça. Et donc, je ne suis pas sûr que... Bon, voilà. Mais alors, on va commencer par le menton. Pourquoi c'est une spécificité de l'Homo sapiens, le menton ?
Personne n'en sait rien du tout. Il se trouve que il n'y a que Homo sapiens qui a un menton.
D'accord.
Les scientifiques n'avaient pas fait attention à ça. En fait, personne n'a de menton, sauf nous. Et c'est arrivé très très vite, hein, il y a 500 000 ans. Personne n'avait de menton sur cette terre.
C'est bien parce que vous nous aidez à nous poser des questions qu'on se pose jamais. C'est-à-dire, je me suis jamais demandé pourquoi j'avais un menton.
Ça doit être la résultante d'autres nécessités, parce qu'en soi, on voit pas l'intérêt. Menton, à 96,7 degrés de l'axe facial, toujours la même pente, il peut être grand, petit, proéminent, toujours le même axe, tout le monde, très vite, un mystère évolutif.
On peut aussi avoir des choses qui servent à rien sur notre corps. C'est possible.
C'est possible.
La poitrine généreuse, je dis pas qu'elle sert à rien.
Ça sert à rien.
Pas d'accord. Mais pourquoi c'est spécifiquement humain, ça aussi? C'est l'allaitement, peut-être?
Les enfants sont pas couchés à cette heure-là.
Parce
que c'est...
Bon, les seins, ça n'a rien de tabou.
Je suis sûr que ce que vous allez nous dire est audible par toutes nos oreilles.
Non, mais en fait, on n'en sait trop rien. Mais c'est vrai que la femme sapiens, c'est la seule à avoir des seins hors période de reproduction et d'allaitement. Les autres mammifères ont des seins qui se gonflent de lait.
Donc c'est une question de sexualité, d'attirance de...
Il y a une hypothèse qui est un peu scabreuse d'un certain Desmond Morris, ça date de 1967, qui a fait beaucoup rire, alors je ne sais pas si on peut tenter la blague. Quand on est devenu bipède, sexuellement on a changé de position, voyez-vous. Et le mâle avait plutôt tendance à faire face au dos de la femelle, autrefois.
Oui. Ouais. Donc la question de la poitrine était neutre.
Était neutre, dire. Mais... il y avait une vue imprenable sur les fesses de sa compagne.
Qui était plus proéminente.
Et alors, si on se retourne, c'est une hypothèse assez scabreuse. Il dit que finalement, les seins des femmes rappellent les fesses de l'ancienne époque.
Ah, c'est drôle.
C'est drôle.
Ah oui, c'est marrant. Bon,
c'est
bah
pas
voilà.
Avéré.
Non, mais en tout cas, c'était
pour
sympa.
Pour vous servir, messieurs.
C'était sympa à raconter. Voilà, merci beaucoup, mesdames. L'humanité, c'est donc une grande famille, justement. On va se plonger dans nos secrets de famille. Pourquoi certains enfants sont plus beaux et plus intelligents que leurs frères et sœurs? Réponse dans un instant sur RTL, et Michael Jackson chante « La nature humaine ».
Michael Jackson, Human Nature sur RTL, et nous, on continue de se passionner pour nous, nous-mêmes, nous et nos ancêtres. RTL.
20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
On remonte le fil de nos origines grâce à nos confrères du magazine Science et Vie qui publie un dossier sur nos ancêtres en partenariat avec RTL. Mathieu Villiers, on va entrer dans le cercle de la famille rapprochée maintenant dans cette séquence. Nos parents, évidemment, nous transmettent leur ADN, mais pas seulement, ils nous transmettent aussi leur vécu.
Alors ça,
et là, je ne parle pas seulement d'éducation.
Ouais, c'est une surprise totale pour les biologistes. Peut-être vous vous rappelez de la querelle entre Lamarck et Darwin qu'on apprenait à l'école quand on était petit. Globalement, Lamarck, il disait les caractères acquis, ils peuvent se transmettre. Quand on a découvert l'ADN dans les années 50, on avait la trace, la preuve quasiment que non. On avait le support de l'hérédité. Ce qui était héréditaire était dans l'ADN. Ce qui n'était pas dans l'ADN n'était pas transmis. C'était des caractères acquis qui ne se transmettaient pas.
D'accord.
Et patatras, au début de ce millénaire, il y a une quinzaine d'années, on a la preuve qu'il y a des choses vécues qui se transmettent.
Par l'ADN ?
par l'ADN.
Comment c'est possible? Quoi, par exemple?
Alors, l'expérience, l'étude fondatrice de ça, qui a vraiment étonné la communauté scientifique comme rarement, c'est une étude qui avait été faite sur des jeunes femmes qui étaient enceintes lors de la Deuxième Guerre mondiale, qui donc avaient été privées de pas mal de choses en termes de nourriture, qui ont eu des petits, plus petits, plus exposés à du risque de diabète, à du rachitisme et à des choses comme ça.
Donc là, on peut se dire qu'il y a une explication normale. Elles ont été mal nourries pendant leur grossesse, donc.
Ces petits, quand ils ont été en âge de procréer, n'ont pas été, eux, durant leur vie, privés de quoi que ce soit en termes de nourriture, ouais. Et ont eu des enfants qui présentaient un risque rachitique et diabétique très supérieur à la moyenne. Consternation, comment c'est possible? Cette chose vécue par les grands-parents a été transmise aux petits-enfants. Alors l'ADN a quelque chose à voir là-dedans. On sait que l'environnement, on a touché un mot tout à l'heure, contribue à modifier l'expression des gènes, mais cet environnement peut à son tour imprimer les gènes qui s'expriment différemment.
Donc on ne repart jamais de zéro, même pour un embryon. Il reste toujours une trace de...
Il reste une trace, absolument. Et d'autres expériences l'ont confirmé sur des souris, où il s'agissait de stresser des souris à une odeur particulière, et quand les souris sentaient cette odeur, on leur inflige une décharge électrique. Les descendants de ces souris étaient stressés en sentant cette odeur, alors que seuls leurs parents avaient été exposés à cette expérience.
Mais ça va sur combien de générations? Ça peut se... C'est
souris,
un ricochet sur...
Sur les souris, on arrive à 4-5 générations de traumatisés par cette expérience, et chez les hommes, on pense 2-3. Et chez les vers de terre, ouais, des dizaines. C'est un truc très étonnant.
Ça veut dire que les vers de terre ont une mémoire génétique plus...
Alors, c'est pas le même code génétique, c'est pas la même chose. En tout état de cause, ça, sur plusieurs générations, une expérience traumatique, et peut-être même une expérience positive, d'ailleurs, pourquoi uniquement
traumatique? Oui, on peut être dans le cercle vertueux aussi.
On a la preuve de cette chose-là qui paraissait complètement insensée il y a encore une vingtaine d'années.
Alors, dans ce Science et Vie, Mathieu Villiers, il y a énormément, vraiment, c'est un magazine qu'on vous conseille. Il y a énormément de questions, énormément de réponses sur des thématiques très variées autour de ce thème central que sont nos ancêtres. Et alors, vous êtes rentré dans les querelles de famille.
Bah, les ancêtres, c'est la famille aussi.
Voilà. Et notamment, cette question qui fâche les différences entre frères et sœurs. Différences de taille, différences d'intelligence. Comment elles s'expliquent?
Alors, ça s'explique essentiellement par l'attention que les parents leur portent. Voilà. C'est-à-dire que, statistiquement, l'aîné a plus d'attention et de soins que le suivant, qui lui-même a plus d'attention et de soins que celui qui suit encore. Voilà. Pour le bon développement des enfants, on sait que l'attention des parents est essentielle, et peut-être que l'attention, elle décroît de manière un peu... Ça s'émousse, si vous voulez.
Il y a moins de temps pour tout le monde. Il y a de moins en moins d'attention des parents, plus on peut considérer que les aînés s'occupent un peu de leurs petits frères et sœurs, et donc
les parents sont plus détendus,
etc.
Aussi.
Mais ça peut avoir un impact sur l'intelligence, sur le QI, qui est une façon de mesurer l'intelligence.
Quand on a un enfant, on peut passer tout son temps avec lui. Quand on a trois, on peut passer tout son temps avec chacun, mais pas tout son temps avec un seul.
Voilà. Et avec, donc, je répète la question, avec un impact sur le quotient intellectuel qui a été mesuré?
Alors, ils ont mesuré que pour un enfant de 8 ans qui aurait deux frères aînés ou plus, il perd presque 3 points de QI, le petit dernier, avec ses deux grands frères. Ça marche pas avec les grandes sœurs. A priori, c'est plutôt l'implication des pères qui sera en question dans cette histoire-là. Et ça marche aussi sur la taille. C'est-à-dire que l'aîné est plus grand. L'aîné fait un peu plus d'un centimètre de plus que son cadet. Puis s'il y en a un troisième, il fait encore un demi-centimètre de moins. Donc en termes d'intelligence, en termes de taille, on voit qu'il y a une hiérarchie au sein de la famille et que l'aîné est favorisé dans tous les cas.
Alors maintenant, on va jouer un petit jeu, Mathieu Villiers, si vous êtes d'accord, sur RTL. Le jeu du papa et de la maman. Ne vous inquiétez pas. Lequel de nos parents nous a transmis tel trait ou tel gène ou telle cellule? Alors on va commencer par le sexe. Qui détermine le sexe de l'enfant?
Le papa.
Ah oui?
Oh bah oui.
Chromosome XY.
Bravo.
Il y a les deux chromosomes dans...
Absolument.
Il y a les deux possibilités chez
le
papa.
La dame est XX, donc... le monsieur est XY. Donc la madame apporte un X et le monsieur il apporte ou un X ou un Y.
Mais il naît quand même un peu plus de garçons que de filles. Comment ça s'explique ça? Ça devrait être du 50-50.
Bah non, les pères favorisent les garçons forcément un petit peu. Les pistons.
Ça doit être ça.
Non, c'est quoi, pas le trop. Chiffre, c'est 105 garçons pour 100 filles,
ouais,
c'est ça?
Ouais, c'est pire que ça même.
Ah bon?
Ouais, parce qu'au moment de la fécondation, la différence est encore plus importante. C'est au moment de la naissance, c'est 105 pour 100.
D'accord.
On pense que le spermatozoïde mâle, parce que le spermatozoïde, il est X ou Y. et il va aller chercher l'ovocyte qui est X de toute façon. Et on pense que le spermatozoïde Y est un tout petit peu plus léger, un tout petit peu plus petit, un tout petit peu plus rapide. Donc il gagne un tout petit peu plus souvent la course pour aller rejoindre le X.
Et une dernière question, parce que ça me préoccupe beaucoup. Oui. À la naissance, les bébés, ils ressemblent plus à qui ?
À leur maman.
Ah bah non, c'est pas vrai. Moi, la mienne, elle ressemble à mon mari.
C'est pas grave, hein, si Denis.
Mais non, mais je voudrais qu'elle me ressemble.
Bon, elle vous ressemble.
Mais vraiment, ça, le bébé ressemble plus à la maman, pour
il
quelle raison ?
Il ressemble plus à sa maman. Alors, c'est les scientifiques qui sont rigolos, ils essayent de trouver des explications à plein de choses. Ils ressemblent plus à leur maman quand ils sont tout petits.
Au début.
Après, ils ressemblent un peu plus à leur papa. Mmh. Et il y a des scientifiques
qui disent que ça va être
que c'est bien vu, parce qu'en fait, on est quand même plus sûr de la mère que du père.
Ouais.
Et ça serait embêtant que si le tout petit ressemblait au père et que celui qui croit être le père ne l'était pas, pour la paix des familles, ça serait pas génial.
Ah.
Donc, le petit commence à ressembler à sa maman, et puis une fois que l'attachement est fait avec le papa, voilà. Il commence à ressembler à son papa en espérant que ce soit le bon.
Quelle belle histoire.
Je vois le postier. Hein. Merci beaucoup, Mathieu Villiers. Science et vie, questions-réponses consacrées à nos ancêtres. C'est passionnant et c'est en partenariat avec RTL.
Vous écoutez RTL.